Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Il a vraiment l'air très fort. On dira ce qu'on voudra, mais la police française est tout de même l'une des meilleures du monde. Avec lui, croyez-moi, l'assassin ne fera pas de vieux os.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au numéro 2 de la revue Prime Cut. Nous allons donc être en compagnie, alors bon, comme d'habitude, hein, nous on a laissé les manettes de l'émission, là, hein, Thomas, moi, on a laissé les manettes de l'émission à notre acolyte, dit la bête noire de Compiègne, notre archéologue préféré, hein, animal en quête de cultures souterraines et oubliées, l'ami Damien Demey. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Tandis que notre loup-garou Picard, lui, il est tranquillement derrière son micro à attendre qu'on lui passe la parole, comme un lion en cage. Et puis on a un invité qui est également membre de l'équipe de Prime Cut, c'est Emmanuel Legagne, qui est rédacteur en chef de la revue. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, bon, les deux autres rédacteurs-chefs, vous les connaissez un peu, hein, c'est Thomas Roland. Bonjour Thomas.
Salut Damien, salut GG et salut Manu, et bien évidemment, salut à toutes.
Et puis, évidemment, votre serviteur, je ne me présenterai pas et je vais tout de suite passer la parole parce que pour ces émissions, nous, on est les invités. Donc, on laisse Damien Demey, notre ami Damien Demey, nous poser les questions. Damien Demey qui a pu lire en exclusivité ce numéro de Prime Cut. Donc, Damien, nous sommes tout ouïe.
Oyez, 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 nous revoici encore une fois de retour avec l'équipe de Prime Cut. Et oui, mes amis, pour rappel, Prime Cut est un magazine de cinéma dédié aux réalisateurs mal aimés, mésestimés, voire oubliés. Nous les avions déjà reçus lors du premier numéro et nous les recevons de nouveau, en partie, pour présenter ce second numéro. Retour glorieux des terres baptisées lancement de projet et premier numéro, les voici naviguant vers les îles séquelles, les îles suites. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Encore une fois pour le premier bijou, félicitations. Et je me suis donc intéressé à cette nouvelle pierre précieuse que vous avez osé déposer sous mes yeux, à demi expérimentée mais assoiffée de cinéma. D'ailleurs, j'ai remarqué un changement dans la mise en page. Léger, mais qui se sent. Donc réarmez-vous de vos yeux, oreilles et stylos. Après Michael Winner, vous venez au secours de Yves Boisset. Cette introduction vous semble sans doute familière, normalement. On va voir si vous avez appris vos leçons par rapport à la dernière fois. Et vous allez sûrement vous souvenir de ces premières questions. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire quand est né Yves Boisset ?
Le 14 mars 1939, parce que je te connais maintenant, j'ai préparé les dates. Hein.
Très bien. Et quel est son premier long métrage ?
Son premier long métrage, c'est le film...
Copland sauf sa peau.
C'est Copland, voilà.
Copland sauf sa peau. Qui devait s'appeler les Jardins du Diable, je crois, enfin, oui. qui était voilà. Autre chose et qui a été remonté sous forme de Copland.
C'était en fait quelque chose qui était assez proche d'un peu des chasses du comte Zaroff, et puis il en a fait un Copland finalement, parce que ça n'en était pas un au départ.
Waouh, vous avez vraiment révisé, du coup ça m'inquiète. Et du coup, la dernière question assez logique, quel est son dernier long métrage
de cinéma ?
La Tribu.
La Tribu,
oui. La Tribu, ouais.
91 sur les... Sur les liens entre... Bah on parle déjà de... On y parle de l'équivalent du Rassemblement National, on y parle de scandale dans la médecine, on y parle un peu de pédophilie aussi. Enfin, il y a pas mal de sujets dans celui-là aussi. Ouais. C'est du Yves Boisset. Voilà.
Parfait. Voilà notre embarcation prête à prendre le vent et à chevaucher les océans tels des pirates. Mais encore, faut-il parvenir à soulever l'ancre ? Et cette ancre, c'est cette question. Pourquoi avoir choisi Yves Boisset ?
Moi, ça me trottait dans l'idée depuis un moment, même au premier numéro, en fait, Yves Boisset. Parce qu'en amont, j'avais dans l'idée, il y a quelques années, hein, d'écrire un livre sur Yves Boisset, qui n'a pas pu se faire pour des raisons diverses. Et puis, après, l'idée de prendre Yves Boisset, c'est aussi de parler d'un réalisateur français. Je pense que c'est important que l'on parle de réalisateurs français qui n'ont peut-être pas eu, à un moment donné, le succès, surtout critique mérité, parce que certains Boisset ont eu un succès réel public, mais au moins critique. Et je pense qu'il y avait beaucoup à creuser dans sa filmographie, donc de 67 à 91, hein, il doit y avoir une bonne, pas loin d'une vingtaine de longs métrages, en fait. Et puis voilà, je pense qu'il a aussi fait de réels chefs-d'œuvre, hein, pas assez reconnus à sa valeur, comme Un Condé ou même La Femme Flic, qui est un film très sous-estimé.
Il y avait une réelle volonté, hein, comme l'a rappelé Manu aussi en choisissant Boisset, de ne pas nous enfermer dans un type de cinéaste et dans un cinéaste. Bon, le premier était un cinéaste britannique. On a hésité entre des cinéastes italiens, des cinéastes français pour ce deuxième numéro. Mais le premier était un cinéaste britannique, plutôt vu comme un cinéaste américain, parce qu'il a fait beaucoup de ses succès aux États-Unis, en fait. Et il est devenu célèbre quand il est parti aux États-Unis, enfin, en tout cas, célèbre aux yeux du monde entier. Voilà. Donc, l'idée aussi, c'était d'alterner. L'idée dans Prime Cut sera d'alterner des cinéastes venus d'un peu tous les horizons, y compris géographiques.
Et puis, c'était aussi l'idée de prendre un cinéaste considéré comme, on va dire, moins réactionnaire que Michael Winner. C'est-à-dire que là, pour le coup, Yves Boisset, considéré comme un cinéaste politique de gauche, en fait. Même si c'est plus compliqué, mais tout de même.
Pour ce numéro 2, on retrouve des noms déjà présents dans le premier. Les vôtres, entre autres, mais aussi Thierry Jousse, Guillaume Sandras, Christophe Petit et Pierre Audebert, pour ne citer qu'eux. Mais je salue également grandement le reste des membres, mais également de nouveaux noms avec Sidney Cado Sambrosi, Roberto Curti et Jacques Faure. Était-il moins compliqué de monter cette équipe pour défendre Yves Boisset par rapport à Michael Winner, ou la complexité est restée la même ?
Alors, Thomas, tu voulais peut-être répondre. Sidney était dans le premier numéro.
Sidney était dans le premier numéro déjà. Elle avait fait des petites chroniques, mais elle était déjà dans le premier numéro.
Et en ce qui concerne les deux autres dont tu as parlé, Jacques Sport, c'est parce qu'on aime bien son travail et il fait un fanzine qui s'appelle L'Insatiable sur le cinéma érotique grec, sur le cinéma grec, cinéma érotique grec, cinéma bis grec, voilà. Et j'adore, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs fanzines qui existent aujourd'hui, pour moi, si ce n'est le meilleur, parce que pour moi, un fanzine, ça doit être ça. C'est-à-dire, ça doit parler de films dont personne ne parle, dont même on va jusqu'à ignorer l'existence pour certains. Et du coup, on avait envie d'avoir sa plume dans la revue pour qu'il nous parle de cinéma grec, évidemment, et là, d'Éricos Andréou, en l'occurrence. Quant à Roberto Curti, il nous a été amené par notre ami Franck Laffont, qui est dans la rédaction, qui connaît bien Roberto. Et Roberto, c'est un grand critique de cinéma italien, qui est passionnant à lire et qui est, comment dire, vraiment, qui était l'homme de la situation là pour aborder en l'occurrence un film qui était un projet commun, Crime obscur en extrême occident, qui était un projet commun Elio Petri, Yves Boisset, donc c'était particulièrement excitant pour les cinéphiles. Un projet qui est assez peu connu et Roberto Curti a une mine d'informations là-dessus et donc c'était assez logique qu'il vienne dans nos pages pour parler de ce film. On est très content d'avoir Roberto Curti dans la rédaction, qui est une vraie pointure, hein, c'est un grand spécialiste du cinéma italien. Vous écoutez Culture Prohibée.
Thomas, je ne dirais pas que Yves Boisset avait des ennemis ou des némésis, mais l'État français lui a mis pas mal de bâtons dans les roues. Peux-tu développer cette relation tumultueuse entre la censure et le réalisateur ?
Un Condé est son troisième film, et avec Un Condé, déjà, il a des... avec son portrait de flic aux méthodes plutôt expéditives, hein, il se fait déjà des ennemis avec l'État français. Donc le film est interdit pendant 2 ans. par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et en fait, le film, cette interdiction fait plus de pub au film qu'autre chose. Hein. Le film, du coup, a un certain succès. Et tout du long, du fait des sujets que touche Yves Boisset dans ses films, évidemment, il ne se fait pas que des copains, quoi. Je pense notamment à l'attentat qui revient sur l'affaire Ben Barka. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a le film qui se passe à Nice, là.
Il y a le saut de l'ange, le juge Fayard dit le shérif.
Il touche des sujets à l'époque qui étaient quand même assez tabous, qu'il fallait pas trop remuer la merde, mais lui, il le faisait, quoi. Et donc, forcément, il se faisait pas que des amis. Et donc, il y a des films qui ont été censurés, interdits, reportés. Et ce qui fait qu'il a été plus ou moins mis dans un placard. Hein. Après La Tribu, il a fait plus que de la télé, des documentaires ou des docufictions. Parce que, on voulait plus de ses films, quoi. Je crois que c'est sous Mitterrand où il a commencé à avoir des gros ennuis.
Les différentes versions circulent. Alors, déjà sur un Condé, Marcelin lui a fait retourner en fait la scène d'interrogatoire qui posait problème. Et effectivement, ça a plutôt porté le film. Alors moi, pour ce numéro, j'ai interviewé Sébastien Lecoq. Alors Sébastien Lecoq, il avait écrit sur Boisset. Sur justement la censure qu'a subi Boisset. C'est un spécialiste du sujet qui sévit dans Darkness Fanzine, qui est un fanzine de l'ami Christophe Triolet, qui est devenu maintenant une revue un peu plus professionnelle, qui est éditée par Leitmotiv, enfin une revue professionnelle même, et qui traite de la censure au cinéma. Mais déjà, quand c'était un fanzine, ça n'avait de fanzine que le nom, en fait, puisque c'était très pro, quoi, déjà. Et en fait, il nous explique plein de choses dans cet entretien. Et il y a aussi des choses qui font partie de la légende, du mythe Yves Boisset. Mais Yves Boisset dit qu'en fait, on lui a coupé les financements, effectivement. Alors, on ne te fait pas tout le détail, parce qu'il y a eu aussi des histoires avec l'armée qui lui interdisait de tourner à certains endroits. Il y a eu aussi d'autres formes de censure avec des mairies qui lui interdisaient aussi de tourner à certains endroits. Il y a eu même avant même qu'il fasse son tout premier film qu'il devait réaliser n'a pas pu être réalisé parce que on avait peur de ce que pouvait provoquer le film, et cran d'arrêt aussi. Il paraît qu'il a dû retoucher le scénario parce que le producteur avait peur de scènes dans le film. Alors il y a toujours plein de choses qui ont circulé autour de Yves Boisset, mais c'est certainement le cinéaste qui a eu effectivement le plus de problèmes, enfin l'un de ceux qui a eu le plus de problèmes en France avec la censure. Il a tourné aussi sur la guerre d'Algérie, RAS, tout ça. Enfin, comme disait Thomas, les sujets qu'il a choisi d'aborder étaient forcément allaient l'amener à avoir des ennuis, quoi. Voilà.
Même pendant les tournages, hein, d'après ce que j'ai compris, il a eu des ennuis sur le tournage de l'attentat où il y a des gens qui venaient foutre la merde pendant les prises ou des choses comme ça. Enfin bref, ça n'a pas été facile pour lui en tant que réalisateur, quoi.
Parce que je pense aussi que c'était un des rares cinéastes français à avoir parlé des problèmes français de l'intérieur, une politique intérieure. Il y a des cinéastes un peu engagés, comme Costa Gavras, même s'il est grec, il a fait des films en France, mais il va dénoncer des dictatures. Et Boisset, il était un des rares à s'en prendre au fonctionnement de la société française, en fait.
C'est vrai ce que tu dis, Manu, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Thomas. Thomas a eu un entretien avec Yves Boisset et il le dit. Moi en fait, on ne me faisait pas de cadeaux parce que Costa Gavras et tout, très bien. Hein, mais il dit, voilà, il tournait des films qui se passaient dans des pays qui n'étaient pas la France. Donc, et lui, il parlait que de la France, Yves Boisset, dans son cinéma. Donc effectivement...
Puis des sujets pas très consensuels.
C'est vrai.
Emmanuel, l'entité Yves Boisset a engendré pas mal de créatures que nous appelons films ou téléfilms. Et ces monstres, tu les as disséqués sous ton regard assidu, ce que je ne pensais qu'être que des films, des objets sont devenus de la matière organique. Peux-tu nous présenter les résultats de ton autopsie? Qu'est-ce qui donne corps aux créations de Yves Boisset?
Déjà, j'ai découvert Yves Boisset très jeune. C'était la première fois que j'ai vu Yves Boisset, c'était Dupont-la-Voie. Et je dois dire que c'est un film qui m'a fait très peur. Mais comme un film d'horreur, c'est un peu pour ça que j'ai abordé Boisset sous l'angle un peu horrifique. Et au-delà du cinéaste engagé, politique, moi, vraiment, la représentation définitive Boissy, enfin de ses meilleurs, de ceux que je préfère, je trouve que ce sont des films assez effrayants, dans sa manière même d'ausculter la France. Donc il y a un côté vraiment très très inquiétant qu'on retrouve dans Machin Flic, dans Canicule aussi, c'est un peu un film de redneck presque. Dans Un Condé, le personnage de Michel Bouquet dans le rôle du flic est absolument effrayant. Et voilà, donc je crois que c'est un peu l'alliage en fait entre un cinéma, effectivement on parle de cinéma engagé, mais aussi un cinéma de genre assez viscéral, je pense, que fait Boissé. Et moi c'est vraiment ce qui me plaît énormément chez lui, et il n'y en a pas tellement en France. J'adhère moins à ses téléfilms, mais c'est plus compliqué là. Je pense qu'il n'avait pas les mains totalement libres quand il a commencé à faire ses téléfilms.
C'est un avis que vous partagez aussi autour de cette table ?
Moi, oui, je pense, comme Manu, effectivement, que ce sont des films qui sont à la fois réalistes et puis il y a un petit côté qui va au-delà du réalisme, notamment Canicule. Hein, d'ailleurs, Emmanuel en parle très bien dans son article. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'outrancier, aussi bien dans Canicule que dans Dupont-la-Joie, qui fait basculer le film dans ailleurs, tout en restant réaliste. Et puis je partage aussi l'idée que son travail pour la télévision est quand même moins bien, peut-être pour des raisons de budget et peut-être pour répondre à des commandes, à un cahier des charges précis, quoi.
Et je pense que c'est ce qui lui a été reproché, une forme de manichéisme, de simplisme, alors qu'il faut le voir, je pense, de façon différente. Il y a un côté excessif dans son cinéma, plus que manichéen. Je pense que c'est pas vraiment la même chose.
Bon, moi, je vais pas répéter ce qu'ont dit mes deux acolytes. Effectivement, c'est pas un cinéaste manichéen, c'est un cinéaste beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis, surtout, pour la télé, à la limite, j'ai envie de dire, pour la télé, ce qu'il a fait de mieux, c'est peut-être pas en fait ce qui était centré sur des personnages réels, pas quand il a voulu s'attaquer à l'histoire ou voilà. Je trouve que ce qui est le plus intéressant, par exemple, j'aime beaucoup sa série noire, La Fée Carabine, qui est adaptée de Pénac, que je trouve vraiment bien. Enfin, où là, je fais pas trop de différence entre son travail télé, son travail cinéma, en fait. Mais bon, il y a aussi Dormir avec le diable, dont je parle dans mon article, qui est un giallo, c'est quand même original, il s'est emparé de la télé pour faire un giallo, c'est assez marrant, parce que c'est un pur giallo, hein, voilà, que j'ai découvert grâce à Emmanuel d'ailleurs, hein. Je ne connaissais pas l'existence de ce film, c'est Emmanuel qui me dit, mais tu sais que Boissé a fait un giallo, je fais non, ouais, si, je pensais qu'il me parlait de Cran d'arrêt, qui est souvent considéré comme un giallo, alors que ce n'en est pas, enfin, pas au sens cinématographique du terme, mais comme c'est adapté de Giorgio Serbanenko, qui est un maître du giallo littéraire, c'est un giallo au sens italien du terme, voilà. Mais là, oui, c'est un vrai giallo, avec érotisme, meurtre à l'arme blanche, tueur ganté, mystérieux, aspect fantastique, et Ingrid Chauvin, ouais, au milieu de tout ça, voilà, qui est l'héroïne du film, donc du téléfilm, et voilà. Non, mais sinon, oui, Boissé, je trouve que c'est un cinéaste, ils l'ont dit mes amis, là, faussement manichéen, et j'en ai un peu marre en fait que Boissé, c'est un peu comme Kayat et toi, c'est des cinéastes caricaturés comme des cinéastes aux gros sabots. On n'empêche qu'aujourd'hui on n'a plus l'équivalent de ces cinéastes, et à part peut-être un peu chez Lucas Bellevaux là, que j'ai rencontré, qui est dans le numéro aussi, que je considère moi un peu comme un héritier, même s'il est différent, hein, son cinéma est différent dans la forme et tout ça, mais dans l'esprit il y a quelque chose de Boissé aussi chez Lucas Bellevaux, mais on n'a plus vraiment de cinéastes comme ça, et en fait aujourd'hui ils nous manquent, ils ont été vilipendés de du temps où ils étaient au sommet de leur gloire, par la critique, hein, pas par le public. Il a eu des gros succès publics, mais aujourd'hui on se rend compte quand même la puissance d'un film comme Un Condé, par exemple. Le revoir aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à Michel Bouquet, qui fait un salaud intégral dans ce film, et c'est peut-être d'ailleurs le meilleur rôle de Bouquet au cinéma, quoi. Donc c'est vraiment un cinéaste fort à réévaluer. J'ai même réévalué des films comme Cran d'arrêt, que je trouvais moyen moi à la première vision, et à la revoyure je trouve ça quand même vraiment bien, quoi. Il y a quelque chose chez Boissé, il y a un truc en plus, comme l'a dit Manu, c'est peut-être le côté excessif, mais il y a vraiment un truc en plus chez lui.
Vous écoutez l'équipe de Prime Cut au micro de Culture Prohibée.
Emmanuel, j'ai une question parce que tu as écrit un article qui s'interroge de la proximité que Yves Boisset a essayé d'entretenir avec le cinéma d'auteur. J'aimerais bien que tu nous parles de finalement comment s'était passée cette expérience et si au final c'était une réussite ou non.
Ah oui, alors on va dire cinéma d'auteur avec un grand A, c'est-à-dire que je pense qu'il a réalisé des films d'auteur avant, mais là il s'est éloigné un peu de son univers. Donc pour le premier film, c'était Un taxi mauve, qui est quand même l'adaptation d'un roman de Michel Déon, un écrivain, on va dire, d'ailleurs plutôt de droite, et il tente vraiment autre chose, une sorte de drame psychologique qui se passe donc en Irlande. Et alors, moi j'ai quand même l'impression que ce sont des films moins convaincants. Ils cherchent une respectabilité, mais il y a quelque chose qui cloche un peu. J'ai l'impression de ne pas retrouver Boisset. Finalement, c'est des films qui auraient pu être réalisé par d'autres, genre Pierre Granier de Fer, des gens comme ça. C'est la même chose pour La clé sous la porte, où il adapte un roman féministe. Et là, moi, je ne retrouve pas beaucoup non plus Boisset, à part qu'il a donné un petit rôle à Barbara Steele, ce qui est quand même pas rien. Par contre, je trouve qu'il réussit un grand film personnel, là, d'auteur, peut-être parce que le sujet le touche plus que les deux autres, c'est avec Allons-enfants. Et ça, je pense que c'est le cas de plein de cinéastes. À partir du moment où on aborde quelque chose qui est plus intime, plus personnel, on réussit peut-être davantage à faire passer des émotions et puis une certaine force. Sur La clé sous la porte et Un taxi mauve, moi, j'ai l'impression de voir un faiseur qui essaye de s'appliquer à faire du cinéma un peu d'auteur. Mais je ne suis pas très, très convaincu. Ça reste des films très regardable, très agréable, hein, surtout un taxi mauve qui bénéficie de superbes lumières, hein, d'une superbe photo et d'excellents interprètes. Mais je n'y vois pas, paradoxalement, je ne les vois pas comme des films personnels, alors que c'était peut-être l'envie de faire un cinéma respectable.
Et puis sur un taxi mauve, Julien, les relations sont compliquées avec une partie du casting, visiblement.
Oui, en plus, on sent que c'est bancal. Hein. On a l'impression qu'ils ne jouent pas ensemble, en plus. Enfin, moi, il y a un truc bizarre quand je vois le film, que j'aime plutôt bien. Hein. C'est pas un mauvais film, loin de là. Hein.
Toujours, en lisant ce numéro 2, je me suis interrogé sur l'actualité que les films de Yves Boisset avaient, non seulement à son époque, mais encore aujourd'hui. Interrogation que je vous pose, notamment Le Prix du Danger et Condé, sont-ils malheureusement toujours d'actualité? Trouvent-ils écho dans notre monde?
Bon, vas-y.
Moi, je trouve que Le Prix du Danger, il est même dépassé, quoi. Et il a été un film d'anticipation pendant longtemps. Après, il a été visionnaire parce que c'est un film qui a annoncé quelque chose qui est arrivé, c'est-à-dire au début des années 2000 avec Loft Story et compagnie, etc. Et puis maintenant, on a dépassé Le Prix du Danger. Bon, on ne tue pas encore des gens en direct à la télévision, mais c'est quand même les jeux du cirque. On humilie des gens, on caste des gens pour qu'ils soient bêtes à la télévision. Je pense à des trucs genre Les Anges de la télé-réalité, etc., etc. Pour moi, Le Prix du Danger, il est dépassé déjà. Et donc c'était un film visionnaire à l'époque, un film d'anticipation visionnaire, mais maintenant. Maintenant, il est dépassé. Alors, du coup, moi, je me pose la question, pour les jeunes générations, il aurait été intéressant de savoir qu'est-ce que les jeunes générations, comment réagissent-ils devant un film comme Le Prix du Danger ? Alors qu'ils sont maintenant abreuvés d'images de télé-réalité, que ce soit par les réseaux sociaux, TikTok, etc., et, ou par des chaînes comme TF1, Les Anges de la télé-réalité, ou Love Story, ou je ne sais plus ce qu'il y a comme émission maintenant, moi je n'ai pas la télé, alors je ne suis pas trop au courant. Donc il aurait été intéressant de savoir ce que pensent les jeunes d'aujourd'hui, je pense aux pré-ados ou adolescents, ou même jeunes adultes, ce qu'ils pensent d'un film comme Le Prix du Danger à l'heure du tout à l'image.
Il y a plein de films de Boisset. Enfin, je veux dire, la femme flic avec aujourd'hui les mouvements féministes, le mouvement MeToo, la femme flic, les revendications pour une égalité salariale femmes-hommes et tout ça. Enfin, toutes ces choses tout à fait légitimes trouvent écho avec ce personnage de femme flic et qui subit beaucoup de choses aussi parce qu'elle est femme. C'est voilà. Et puis qui est aussi quelqu'un d'intransigeante, qui dérange comme tous les héros de Boisset. La question du genre. genre aussi, La Travestie avec Zabou Breitman, qui n'est pas un des meilleurs films d'Yves Boisset, mais la question du genre y est abordée frontalement. C'est une question de société aujourd'hui aussi encore très prégnante, toujours prégnante. Radio Corbeau avec La Délation, La Tribu avec les scandales dans le milieu hospitalier, les liens avec le Rassemblement, enfin le Front, ce qui est l'équivalent du Front National avec la Tribu, comment dire, le
corruption politique avec le Sceau de l'Ange ou voilà. L'attentat, puis aussi la violence policière via un Condé qui sont toujours d'actualité malheureusement aujourd'hui, comme on l'a vu avec les différentes manifestations qui ont été violemment réprimées ces derniers mois voire années.
Et puis Dupont-la-Joie, malheureusement, le racisme reste très présent dans nos sociétés. Donc non, je pense que l'œuvre d'Yves Boisset, en fait, elle est assez intemporelle. Je pense qu'elle sera réévaluée, d'ailleurs, au regard de l'histoire, puisque c'est un cinéaste qui est un cinéaste historien, un peu. Hein, et un historien, ce qui est le plus dur, un historien de l'immédiateté. Voilà, et ça c'est quelque chose de pas évident parce que il traitait quand même des sujets à chaud ou alors vraiment, en tout cas ça venait quasiment de se dérouler, donc c'était gonflé.
Il avait une formation de journaliste, hein. Enfin il a travaillé comme journaliste sur les faits divers avant d'être critique de cinéma, donc forcément c'est quelque chose qui à mon avis apparaît dans ses films, ce désir d'investigation, de chercher la vérité, on voit ça dans ses films, dans L'Attentat, ou même dans ses téléfilms, qui me convainc moins, mais pour des questions de forme et d'écriture, comme l'affaire Dreyfus ou l'affaire Seznec. En plus, l'affaire Seznec, on sait, aujourd'hui, on dit que Seznec était coupable, hein, et lui-même le dit dans son livre, hein, parce qu'il fait un film qui relaxe Seznec alors qu'il était coupable, et je pense qu'il le savait déjà. Donc moi, ce sont ces films-là, ces téléfilms-là qui me convainc moins, qui semblent répondre à un cahier des charges, que ce soit notamment au niveau de l'écriture du scénario que de l'écriture visuelle avec des plans pour rappeler qu'on est à tel endroit, etc. J'y vois moins une patte Boisset.
Après, c'est des dates, hein, quand même, ces téléfilms. L'affaire Seznec, c'est 3 sets d'or, dont celui du meilleur réalisateur, du meilleur film, du meilleur auteur pour Boisset. Le Pantalon, c'est le set d'or du meilleur film en 97. Jean Moulin, c'est le prix du meilleur scénario FIPA 2002. Alors peut-être qu'au regard des productions télévisuelles d'aujourd'hui, on trouve peut-être ces productions télévisuelles-là peut-être un peu datées dans la forme, comme tu dis, mais en tout cas, elles ont rencontré un grand succès public et critique à l'époque de leur réalisation.
Jérôme, au tout début de la chronique, tu as dit que Michael Winner était un Anglais, mais surtout vu comme un réalisateur américain. Mais dans cette façon dont tu l'as dit, je comprends que Yves Boisset, d'une certaine façon, serait plus un réalisateur européen. Et dans l'un de tes articles, tu t'es penché sur l'une des sources créatrices de l'auteur, une source qui s'écoule des Alpes et qui fait transpirer ses films d'une saveur salée d'Italie, si je ne m'abuse.
Le truc, c'est ça, c'est que Yves Boisset, il était très fan, lui, du cinéma américain, du film noir et tout ça. Mais quand il a fait du cinéma, il l'a fait à la manière des Italiens. C'est-à-dire qu'il a fait du cinéma de contrebande, quoi, à la manière des Italiens. Et puis très tôt, ce que je développe dans l'article, hein, c'est que on voit que Boisset, en fait, il est pris comme tous les cinéastes de l'époque, hein, dans ce système de coproduction où il va être assistant en Italie, il va travailler en Italie, il va faire des coproductions en Italie. Il y a des films qui peuvent apparaître comme des films français, mais qui sont en fait des films franco-italiens. Donc il va beaucoup travailler avec l'Italie. Et moi, j'ai surtout voulu pointer le côté italien de Boisset pour deux choses. Je pense que si Manu m'avait pas fait découvrir ce giallo tardif, j'aurais pas fait cet article. Voilà. Mais le fait de voir ce giallo m'a profondément surpris. Voilà. Donc, parce que en vérité, du coup, j'ai choisi de m'intéresser à deux grands mythes de l'Italie, pour tous les cinéphiles en tout cas. Enfin, il y en a un, c'est pas un mythe italien, hein. Giorgio Serbanenko, c'est un mythe mondial. C'est un des plus grands auteurs de littérature noire, hein, de littérature policière. et qui est un véritable mythe. Il y a des prix qui portent son nom aujourd'hui, hein, en Italie, c'est un mythe absolu qui a été énormément adapté au cinéma et tout ça. Je le remets un peu dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui connaît Giorgio Serbanenko, il ne faut pas se mentir. Mais par contre, c'est une vraie légende, Giorgio Serbanenko, pour les amateurs de romans noirs. Et il a adapté, Cran d'arrêt, Vénus privée, le titre du bouquin, qu'il a adapté. Cran d'arrêt, bon, ce n'est pas une adaptation non plus totalement réussie, dans le sens où c'est pas aussi bien que le bouquin. Voilà, on n'a pas le même plaisir à lire le bouquin, à voir le film. Mais Cran d'arrêt, c'est quand même vachement bien. Voilà, il y a un côté dans le film avec ce tueur peroxydé, tout ça. Il y a un côté un peu presque giallo qui a fait que le film a souvent été considéré comme un giallo et n'en est pas un en fait. Hein, voilà. Et puis du coup, après, il y a un giallo. Et alors là, c'est très étonnant parce que Yves Boisset, dans tous ses films, il y a des meurtres, il y a de l'action, il y a tout ça. N'a jamais vraiment filmé ses films comme des gialli, enfin comme des giallo au pluriel si vous préférez, n'a jamais manifesté, enfin n'a jamais semblé être directement un émule de Dario Argento et Mario Bava en vérité. Voilà, même si c'est des cinéastes, Mario Bava il connaissait très bien puisqu'il écrivait aussi dans Midi Minuit Fantastique. D'ailleurs, j'ai aussi rencontré Nicolas Stenzi qui a écrit cette intégrale de Midi Minuit Fantastique qui revient sur le fait que Yves Boisset était un midi-minuiste, comme on l'a dit. Voilà. Et donc, il connaît bien Mario Bava. Et il fait avec ce film-là, ce téléfilm, qui est un épisode d'une étrange série télé qui était coproduite par M6 et qui, à chaque fois, avait comme principe de mettre une jolie jeune femme en difficulté dans un thriller. Voilà, c'était pas une série avec un héros, c'était des téléfilms comme ça. Là, ça doit faire une heure et demie, je crois, Dormir avec le diable, c'est de 2001. Et là, c'est Ingrid Chauvin, en l'occurrence, qui se retrouve sur une petite île bretonne, je crois, et coincée parce que avec son club de parapsychologie, parce qu'elle est un peu parapsychologue, ça c'est le côté Argento, hein, c'est le côté les frissons de l'angoisse. Elle est un peu médium, elle est peintre aussi, elle est artiste. Là encore, Argento, Bava, voilà. Et sévit un tueur qui tue des charmantes jeunes femmes, et elle aurait des un peu comme ça. On ne sait pas trop si elle a des rêves prémonitoires, tout ça. Enfin bref, on est en plein dans le giallo, le pur giallo, même esthétiquement parlant. C'est pas un giallo par accident. Vraiment, esthétiquement parlant, on est là-dedans. Donc, évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein, c'est pas un chef-d'œuvre du giallo méconnu qu'on découvrirait. Voilà. Mais par contre, c'est rudement intéressant. C'est un produit très soigné. Hein. Alors, on devine pourtant fait dans un cadre très étriqué pour la chaîne M6. Donc, il fallait que ce soit quand même à peu près tout public. Quoi. Et je pense qu'il va au maximum de ce que la censure télévisuelle pouvait lui autoriser en 2001 pour pouvoir passer en prime time. Je pense qu'il va au maximum. Et du coup, ça donne une sorte de giallo hybride très efficace où on retrouve aussi des vraies préoccupations de Boisset, puisqu'il y a ce type qui se prend pour un shérif, donc cette critique un peu comme ça du virilisme, de la toute puissance régalienne et tout ça, c'est assez rigolo. Et voilà, c'est pour ça que moi, quand j'ai vu qu'il avait fait un giallo, je me suis dit, oh, c'est pas possible en fait. Parce qu'on a souvent dit que c'était le plus italien de tous les cinéastes français, et je trouve que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Mais par contre, il a un vrai lien avec l'Italie et il a un vrai lien avec le cinéma italien. Il a entre autres pas mal travaillé avec Riccardo Freda. Hein. Et Riccardo Freda, c'est quand même une légende du cinéma italien populaire. Voilà. Donc, dans le bon sens du terme. Donc voilà, Yves Boisset, c'est cette alliance-là, hein, c'est cette alliance entre le cinéma, puisque c'est un auteur, hein, entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Et il est à cette jonction, qu'on retrouve très souvent aussi chez les cinéastes italiens, qui sont souvent très complets, hein, qui à la fois vont faire des films comme Sergio Solima ou dans la comédie comme Dino Rizzi, des films qui vont avoir des gros succès en salle, mais qui sont en même temps des films avec des vrais sujets de fond et qui évoquent des problématiques réelles qui traversent la société italienne. Et Boisset fait la même chose dans son cinéma également, en parlant de la société française.
Thank you.
Vous écoutez Culture Prohibée.
On va voir encore une fois si vous avez bien retenu la leçon de la dernière fois, car cette question, vous l'aviez déjà eue, une question que je trouve incontournable. Quel est votre film préféré de Yves Boisset, avec un moment marquant pour vous dedans ? Manu, je te laisse commencer ta réponse.
Alors, c'est difficile parce que moi j'en aime énormément des Boisset, mais je répondrai quand même le comment il s'appelle, parce que c'est celui que j'ai vu en premier, c'est Dupont-la-Joie. Et je crois que c'est peut-être l'arrivée dans le camping, parce que moi ça m'effraie les campings, et là vraiment il y a quelque chose que je trouve vraiment terrifiant. Mais c'est une image même que j'ai eue très jeune, et même quand je le revois, il y a quelque chose qui m'angoisse. C'est cette arrivée de Jean Carmet avec sa famille dans le camping, où ils vont chaque année, cette routine qui est un cauchemar qui est réitéré chaque année, quoi.
Dupont-la-Joie, c'est le cauchemar de Guy Debord, quoi. Un peu.
Oui, c'est un peu ça.
Pas faux. Hein.
Bah, je sais pas, moi, quel est celui que je préfère. J'aime bien ces polars, genre Le Saut de l'Ange, etc. Mais ce qui me marque aussi, Dupont-la-Joie me marque pour une, pas forcément pour une scène ou une autre, c'est surtout que je trouve que c'est une illustration extrêmement pertinente de la théorie du bouc émissaire de René Girard. Mais c'est exactement ça, la façon dont le film est écrit, comment les choses prennent forme, comment les événements s'enchaînent, etc. C'est vraiment la théorie du bouc émissaire telle que décrit par René Girard dans son livre La violence et le sacré. C'est-à-dire, tout le monde connaît l'histoire, hein, c'est une ratonnade. Hein, et donc, en fait, on ne cherche pas un coupable, on ne cherche pas le coupable. On cherche un coupable. Et le coupable, forcément, c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous. Et ici, c'est l'arabe, hein, c'est l'époque des ratonnades, etc. Et je trouve que le film, même dans sa mise en scène, à un moment, il y a un plan où on voit un train qui passe au loin dans la nuit, et puis il fait marcher sa sirène. Et c'est un plan qui dit que la coupe est pleine, quoi. La tension est à son paroxysme. Et je trouve que ça démontre bien le mécanisme de la violence de la cité, comment après la cité, les membres de la cité essayent de canaliser la violence en sacrifiant l'étranger. L'étranger, ça peut être, c'est pas forcément par rapport aux origines ou la couleur de peau, hein. L'étranger, ça peut être quelqu'un qui pense pas comme nous, qui n'a pas les mêmes goûts, etc. etc. On retrouve ça dans n'importe quel groupe. Donc, et je trouve que pour cela, ce film, rien que pour ça, je trouve que ce film est vraiment d'une pertinence très pointue. Et bon, c'est le film que je. Et c'est un film que j'utilise en atelier aussi d'analyse d'image. Et rien que pour ça, quoi.
Ah bah si je dis que mon préféré c'est Dupont-la-Joie, du coup c'est un peu naze parce oui. que ouais, voilà merci oui, Damien, que, merci
non
voilà.
Mais pas à cause de ce que tu penses, c'est parce mais vu que tu es le dernier du groupe t'auras pas la même question parce que toi tu as eu le temps de la préparer, ce que n'ont pas eu les autres.
Ouais si tu veux. Ouais,
donc toi tu auras une question totalement différente. Ce qui est arrivé à Thomas la dernière fois, c'est du coup le Yves Boisset que tu apprécies le moins, et si tu pouvais mettre en fait toute la charge de pourquoi tu le préfères le moins sur une scène, bah, ce serait quel film et ce serait quelle scène?
Il n'y a pas vraiment d'Yves Boisset que j'aime pas, en fait. Il y en a que je préfère le moins, c'est difficile à dire. Autant sur le premier numéro, je pouvais te dire des choses, autant là, sur Yves Boisset. Bon, moi, j'aurais voulu parler du travelling arrière de l'attentat, hein, pour pas parler de Dupont-la-Joie, mais bon, du coup, je le fais, j'en profite. Hein, mais. Si je devais dire un film peut-être que j'aime moins, peut-être La Clé sur la Porte, parce que je trouve que je trouve même que Devers est pas, il est un peu à contre-emploi, enfin on le sent pas bien dans son rôle, tout ça, enfin voilà, c'est vraiment peut-être celui que j'aime le moins, mais je l'aime bien quand même, voilà, si tu veux. J'ai pas de, autant il y avait des films de Winner que je trouvais très mauvais, on en avait discuté, hein, pour le numéro 1, autant pour moi Boisset a pas fait de mauvais films, en fait il a fait que des bons films dont certains excellents, voilà, il a pas fait de mauvais films, donc j'ai pas envie d'être dur avec Boisset puis de dire il y a des films, puis c'est subjectif. C'est le film que j'aime le moins, mais sincèrement, c'est pas non plus un mauvais film. D'ailleurs, Emmanuel l'a dit.
Thomas, je vais à présent sortir du dossier bouillant, car même si Yves Boisset est omniprésent, il y a d'autres articles qu'on peut lire. Du coup, je vais à présent sortir du dossier bouillant pour te poser deux questions. La première, c'est est-ce que tu apprends de tes erreurs?
Bah, je crois quand même, ouais.
Et donc la seconde, c'est penses-tu que ce fut le cas pour le producteur André Genovese?
Ah. Bah, je ne sais pas, parce qu'il n'a plus rien fait après.
Il a appris trop tard, j'ai envie de dire.
Ouais, apparemment il a appris trop tard. Hein. Mais bon, en même temps, on ne sait pas trop le fin mot de l'affaire. Mais...
Tu peux nous raconter l'affaire rapidement?
Bah, en fait, André Genovese, c'est un producteur qui était... Qui était très réputé, hein. Il a produit quelques succès, notamment des films de Claude Chabrol, hein, des films d'André Téchiné, enfin c'était pas n'importe qui. Et un jour il décide de passer à la réalisation, ce qui n'a pas été la meilleure idée qu'il a eue apparemment, hein. Il a d'abord réalisé une adaptation d'un roman érotique qui s'appelle Mémoire d'une culotte en français, là, et il a réalisé un film qui est quand même assez célèbre, hein. À l'époque on en a beaucoup parlé, qui s'appelle Mesrine avec Nicolas Silberg dans le rôle principal, dans le rôle titre. Et après, il n'a plus rien fait. Alors moi, je me suis interrogé. Ce qui m'intéressait, c'est de trouver comment se fait-il que André Genovese, producteur réputé, disparaisse comme ça de la circulation. Parce qu'après Mesrine, c'est un film de 84, je crois. Hein. Après Mesrine, il disparaît complètement de la circulation. Alors, le film Mesrine, hein, il a eu des soucis judiciaires avec les descendants de Mesrine, la famille de Mesrine, et certaines personnes qui ont eu des mailles à partir avec Jacques Mesrine à l'époque, qui ont été enlevées avec lui. Et donc, il a eu quelques procès. Et je me pose la question, est-ce que ça ne serait pas à cause de ces procès qu'il l'aurait mis sur la paille, et du coup, par conséquent, André Genovese n'aurait pu plus rien faire.
Jérôme, tu as rencontré une femme. Ne me dis pas non, je sais que c'est vrai. Une du mauvais genre, d'ailleurs, en plus. Et tu n'as trouvé aucun moyen de nous le dire que d'écrire sur elle, d'écrire sur Pia Degermark. Et je sais que tu veux absolument nous en parler, donc je vais te laisser faire.
Oui, alors, bon, c'est dans le cadre de la rubrique Mauvaise Graine, qui présente des acteurs ou des actrices un peu rock'n'roll. Hein, j'avais parlé d'Ian Michael Vincent dans le premier, qui est plus connu, hein, que Pia Degermark. Pia Degermark, si je vous dis ça comme ça, à première vue, vous me dites... On ne sait absolument pas qui c'est. Et en fait, elle a eu une carrière éclair. Elle a joué dans quelques films. Elle a surtout débuté. Alors, c'est une fille de la haute, hein, c'est une fille de l'aristocratie et qui est une Suédoise et qui a débuté dans un film de Bo Widerberg qui a été couvert de prix dans le monde entier. Bo Widerberg avec ce film, c'est Elvira Madigan, d'après un véritable personnage. Hein. Un personnage historique. Et il se trouve qu'elle, avant, n'avait jamais fait de cinéma. Voilà. Et donc, elle est prise pour le rôle. Et elle est littéralement, cette Suédoise, illumine le film de sa présence. Elle est toujours vivante, hein, aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein. Et elle va, remporter le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Et puis elle va faire des mauvaises rencontres dans sa vie, elle va rencontrer des mauvais garçons, elle va rencontrer aussi des substances illicites, enfin elle va avoir une vie assez rude, avec beaucoup de dépendance, beaucoup de problèmes de dépendance, beaucoup de, voilà, une vie rock'n'roll. Elle est toujours debout, cette femme, n'empêche, elle est toujours là aujourd'hui, elle a écrit une autobiographie, elle pense, j'en parle dans mon article, elle pense même que ça mériterait l'adaptation en film, et je pense qu'elle n'a pas tort. Voilà, et c'est une actrice, c'est l'actrice d'un film. Et puis elle a fait quelques autres films, hein. Elle a fait un petit film de vampire, de trucs moitié teuton, moitié anglais, voilà, enfin des trucs un peu étranges. Mais elle a jamais fait elle a fait quelques blockbusters aussi, mais elle a jamais fait d'autres films qui ont été marquants. Elle avait des rôles assez secondaires ou alors elle était là pour son physique. Elle apparaissait nue de manière furtive dans le film de vampire de Freddy Francis, si je ne m'abuse, hein, pas n'importe qui non plus. Mais bon, le film est vraiment pas terrible. Mais bon, il est rigolo. C'est un produit d'une certaine époque. Mais voilà, je voulais parler de cette actrice que je pense personne ne connaît. Puis c'est un peu le but de la revue, de parler un peu de personnes qu'on ne connaît pas vraiment. Et qui, pour le coup, c'est pas toujours fréquent d'avoir quelqu'un qui a un prix d'interprétation à Cannes et qui disparaît complètement de la circulation dans la foulée, comme ça. Et elle est, effectivement, elle tient le film sur ses épaules. Elle est magnifique dans le film. Donc c'est assez étonnant. Elle est de tous les plans du film. Et elle est, bon, je pense que le réalisateur aussi est amoureux d'elle, enfin il la filme amoureusement, je veux dire, voilà, comme tout bon réalisateur. Et du coup, le film est une ode aussi à son physique, à son visage, à ça. Ce sera le film de sa vie, voilà. Et ceux qui ont vu le film se souviennent d'elle, c'est obligatoire, elle est absolument magnifique dans le film. Donc c'est une manière de rendre hommage à cette actrice hors norme, au parcours de vie assez rock'n'roll.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial Prime Cut.
ne me huez pas, mais je n'ai pas vu Allons Enfants. Néanmoins, je me demandais de ce que j'ai vu si ce n'était pas une sorte d'antithèse ou de reflet déformant de À l'Ouest, rien de nouveau.
Comme ça, brûle pour point, si tu veux, c'est un peu particulier. Effectivement, c'est deux films pacifiques, donc qu'on peut rapprocher pour cet aspect-là. Le film de Boissé est très inscrit dans une réalité franco-française avec cet enfant qui est envoyé en école militaire par contre son gré, par son père. Cet enfant qui est incarné par Lucas Bellevaux. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça. Au départ, je l'ai interviewé pour ça parce que je trouvais qu'il y avait une filiation, moi, entre le cinéma de Lucas Bellevaux et celui de Boissé. Et comme il a débuté comme acteur quasiment chez Boissé, donc je voulais avoir son avis sur cette expérience. Il est super, Lucas Bellevaux, comme acteur dans ce film. Enfin, de toute façon, il est toujours super comme acteur, mais là, il est vraiment super. C'est une vraie révélation. Emmanuel l'a dit, c'est un des meilleurs film de Boissé qui est totalement méconnu. Hein. C'est un film qui n'a pas des masses marqué le public, pourtant c'est un super film. Et petit à petit, ce gars-là, il va se retrouver un peu contre son gré sur les champs de bataille, quoi. Hein. Et avec la fin du film que je ne vais pas raconter, mais c'est un très beau film. C'est vraiment un film très touchant et c'est un film qui pose des questions sur l'engagement, sur le poids de la famille, sur. C'est un film, je pense, moi, très important dans le cinéma français de son époque. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, on est en 81. Et pour moi, c'est le dernier chef-d'œuvre de Boissé. Voilà. Après, il va faire des bons films. Espion, lève-toi, c'est bien. Canicule, c'est super et tout. Mais pour moi, c'est son dernier chef-d'œuvre, c'est celui-là. Voilà.
C'est sûr que c'est un film très personnel. Hein. Le film, il est tellement personnel, il était tellement imprégné par le matériau d'origine, hein, qui est un roman, que l'auteur du roman est particulièrement touché. Il a une salle chez lui où il regarde le film tout seul. Il vit un peu comme un ermite. Hein. Il dit qu'à chaque fois qu'il voit le film, il est en larmes, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose, il y a mis beaucoup de lui, ça c'est sûr. Et c'est vrai que je rejoins Gégé, c'est l'un des derniers grands films de d'Yves Boissé. Quoi. Après, À l'Ouest, rien de nouveau. Moi j'ai lu le roman il y a très longtemps, donc peut-être qu'il y aurait... on peut peut-être voir le même personnage dans À l'Ouest, rien de nouveau, qui est la... le prolongement du personnage d'Allons Enfants, même si chronologiquement les deux œuvres, À l'Ouest, rien de nouveau, vient avant Allons Enfants, mais on peut y voir aussi le prolongement du même personnage, quoi, l'évolution du personnage, même si c'est pas la même guerre non plus. Hein. À l'Ouest, rien de nouveau, c'est la première guerre mondiale, et Allons Enfants, c'est la seconde, mais on peut y voir effectivement un prolongement thématique entre ce personnage qui n'est pas le même et qui pourrait être le même.
Oui, donc l'auteur, c'est Yves Gibaud, Thomas.
Après, se plongeant dans les œuvres de Yves Boissé, vous ne vivez pas avec un petit sentiment de vide, celui qui dit qu'on aurait pu avoir plus de films, de longs métrages au cinéma et que ça n'a pas été le cas?
Bon, je ne fais pas partie des gens qui refont l'histoire, donc c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Y a eu des grands films. Il y a eu un Condé, le juge Fayard dit le shérif, l'attentat, Allons Enfants dont on a parlé, Dupont la joie. Il y a des grands films, donc il restera les grands films. Voilà. Et puis, on a empêché Yves Boissé de travailler. Il a pu s'exprimer un peu à la télévision. Mais pour le cinéma, c'est sûr que ça a été une perte, hein, qu'il ne puisse plus faire de films. Vu ce qui s'est passé ces dernières années, dans les années 2000, tout ça... Je suis sûr qu'il aurait fait des films féroces, des films fabuleux, sur des gens comme Sarkozy, tout ça. Il aurait pu faire des films extraordinaires, notre ami Yves Boissé. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est ainsi, et on va pas refaire l'histoire.
Effectivement, il aurait voulu faire ces films-là, mais avec la société qui évolue, je me dis qu'en fait, effectivement, ça aurait pas été possible. Et puis il aurait été pris dans une sorte d'engrenage, parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'on prend pour des films subversifs et critiques, c'est quand même Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou alors À bras ouverts, qu'on qualifie de films antiracistes. Je me dis que Yves Boissé n'a plus trop sa place en tant que réalisateur actif aujourd'hui. De toute façon, toutes les bonnes choses ont une fin. Il a aussi fait sa carrière, etc. Mais je ne suis pas sûr que effectivement, il aurait pu produire des films comme ça. Bon, il y a Lucas Bellevaux hein, qui fait encore des films un peu plutôt engagés, mais à part Lucas Bellevaux, je vois pas trop quoi.
Non, c'est sûr, Lucas Bellevaux est un peu seul aujourd'hui sur la place, voilà, comme l'on dit, dans la place. Mais bon, moi je retiens de cette carrière d'Yves Boisset quand même une sorte d'historien, historien immédiat, comme j'ai dit tout à l'heure, et une sorte de sociologue de la société française, quoi. Et je trouve qu'effectivement, ça culmine dans Dupont-la-Joie, qui est un modèle dans le genre d'analyse du comportement de groupe et tout ça. Avec le film de Corman, je le range avec le film de Corman, The Intruder, voilà, où on voit on voit le comportement des masses, on voit qu'une foule c'est con, quoi. Voilà quoi. Et je trouve que c'est le film, et pour ça il est fascinant, quoi. Il étudie très bien comment on peut mener une foule. Et comment cette foule peut se comporter, surtout. Parce que chez Intruder, c'est comment on peut mener la foule, mais là, c'est comment elle peut se comporter, comment la masse peut se comporter, comment la société en tant qu'entité, justement, peut déboucher sur la pure bêtise, la pire des conneries. Et puis voilà, quoi. Donc, à mon avis, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne cessera de réévaluer le travail d'Yves Boisset dans les années à venir.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.